28 ans plus tard est une suite qui divise, qui surprend, qui fait parler d'elle, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Salut à tous, c'est Vin sur Plotime, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film 28 ans plus tard, le temple des morts. 28 ans plus tard, partie 2 si on veut, ce qui en fait le quatrième opus de cette saga maintenant. Film post-apocalyptique américano-britannique réalisé par Niad DaCosta. Je sais, ça fait partie des plus gros points d'interrogation de ce projet de trilogie. Pourquoi diable Danny Boyle reprend des années après sa franchise 28 jours plus tard, pour finalement l'affiler à une réalisatrice qui s'est retrouvée sous les projecteurs de nombreuses polémiques dues à son CV. Cette dernière ne proposant que des films qui ont suscité de très mauvais retours critiques, autant du public que par la presse. Candyman, The Marvels, jusqu'au plus récent Redda que je n'ai pas vu, qui s'est lui aussi retrouvé avec de très mauvais retours. Et partout, hein, vous pouvez chercher. C'est bien la preuve qu'Hollywood ne fonctionne que par un système de réseau. Si Niad DaCosta a été choisie, c'est probablement parce qu'elle est proche de quelqu'un de connu. Et c'est comme ça que ce secteur fonctionne, et ce, depuis toujours. Mais ce n'est pas tout. Le plus surprenant reste l'idée d'avoir fait de 28 ans plus tard une trilogie, alors que la première partie semblait tout bonnement être un essai artistique propre à Danny Boyle, avec un style très détaché des deux premiers films, d'où ce côté caricatural étrange qui a énormément divisé le public. Bref, nous allons évidemment en parler en détail, mais avant ça, j'informe que vendredi, je sors enfin ma vidéo bonus consacrée au film Atoman, dont j'ai commencé à vous parler avec beaucoup de passion dans mon top flop 2025. C'est justement grâce à cette vidéo que je me suis rendu compte qu'il y a bien plus de choses à développer. Tout ça avec de la joie, de la bonne humeur et un tout petit peu de sel. Ça mange pas de pain. Disponible vendredi sur mon Patreon pour remercier les gens qui me soutiennent financièrement. Sur ce, voyons si Niad DaCosta est réellement à la hauteur de sa mauvaise réputation. Dans les temples des morts, le docteur Kelson se retrouve lié à une relation surprenante et complexe. Pendant ce temps, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal vire au chaos. Ici, ce ne sont plus seulement les infectés qui menacent l'humanité, ce sont les survivants eux-mêmes. Par leur absence d'empathie, qui deviennent le plus grand danger. Bon bah, j'ai failli sortir de la salle. J'ai bien failli, alors je précise, je repars à nouveau en improvisation pour cette vidéo. En fait, c'est simple, quand j'ai du mal à bien synthétiser mes mots en texte, je préfère partir en improvisation. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, ok, là j'ai trop de trucs à dire, surtout par rapport au premier film. Donc, j'ai failli sortir de la salle. Je vais spoiler également, parce que je trouve que ce film ne raconte absolument rien d'intéressant. Sauf la fin, voilà, je garde une toute petite catégorie pour la toute fin de ma vidéo. Même si, bon, vous allez voir que c'est pas non plus forcément tout ce qui est de plus palpitant. Et je remarque que le film a reçu de bonnes critiques, ce qui m'a surpris. Hein. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh là là, ce film va se faire démonter. Il va se faire démonter ce film, mais démonter, mais comme c'est pas permis, pas du tout. Ce film est plutôt bien reçu et c'est très étrange parce que le premier film qui lui était un véritable essai artistique, comme je l'explique au début de ma vidéo, un vrai essai artistique de la part de Danny Boyle, qui nous fait une vraie démonstration avec 28 ans plus tard, je me suis dit que c'est impossible que ce film soit bien reçu, parce que là on a un format bien plus classique qui peut-être plaira aux gens qui n'ont pas aimé le premier film, nous verrons bien. Mais en tout cas ça ne me surprendrait pas. J'ai marqué également, j'ai rarement vu un film aussi décousu narrativement parlant. Je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans, je suis méchant hein, mais c'est le cas, c'était dans Monster Hunter le film. La narration n'a... C'est pas que ça n'a aucun sens, c'est juste qu'il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas de personnage secondaire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Tu penses que tu vas regarder la suite du premier film, ce n'est pas parce que ça reprend pile après le premier film que c'est une suite. Parce que les sujets qu'on aborde dans le premier film, ce n'est même pas qu'on ferme les sujets, qu'on ne ferme pas les sujets dans la suite, c'est juste qu'on n'en parle même pas en fait. Tout ce qui était abordé dans le premier film, on n'en parle même pas. Voilà, le père... Bye bye. Spike, bye bye. On s'en fout. Ce n'est pas une suite. La faune a complètement disparu. Parce que, rappelez-vous, dans le premier film, on installe un nouvel univers par rapport aux deux premiers films. Et des premiers films qui sont finalement des films post-apocalyptiques. Bon, déjà, on a 28 jours plus tard qui est un film apocalyptique. 28 semaines plus tard qui, lui, est un vrai film post-apocalyptique. Et là, on a un autre film. On découvre un nouvel univers avec la faune, les infectés qui font partie de l'univers, un petit peu comme si c'était des animaux. Disparu ! Disparu ! voilà, on n'en parle plus. Les infectés sont devenus complètement anecdotiques. Alors je sais bien qu'on part dans un délire à la The Last of Us où les humains sont finalement le vrai danger. Ok, on a compris, très bien. J'ai même pas cherché à comprendre la symbolique, parce que je sais qu'apparemment, on a beaucoup de symbolique dans le premier film. Ça parle soi-disant du Brexit, des mâles alpha, tout ça. Bon, ici, voilà. Ok, d'accord, c'est pas discret. Je n'ai même pas cherché à comprendre de quoi parle cette suite. J'en avais rien à foutre. On a décidé de s'asseoir sur ce qu'était le premier film. Ok, très bien, je m'assois dessus, enfin, je cherche même pas à comprendre. Mais tout ça pour dire que le premier film insistait beaucoup sur le danger que représentait l'univers. Et c'est pour ça qu'on a absolument pas l'impression que le Temple des Morts est finalement une suite, puisque tout ce qu'on a installé dans le premier film ne sert à rien ici, ça ne sert à rien. Les infectés, ça ne sert à rien. Vraiment, c'est impressionnant. Et donc, Spike, comme j'expliquais, il n'a même pas d'arc à lui. On a préparé un truc dans le premier film par rapport à lui, le fait qu'on ait le devoir le suivre, ce n'est même pas abordé dans la suite. Ce n'est pas un film sur les, c'est un film sur l'espèce de boys band, sur les Jimmy comme ils le disent, sur l'espèce de secte. Et là, vous savez, les espèces de Power Rangers qu'on voit à la fin du premier film qui a fait un bad buzz. Hein. Et c'est pour ça que je suis très surpris des critiques, parce que tous les gens qui n'ont pas aimé les 5 dernières minutes de 28 ans plus tard, je vous préviens, mais cette suite, le Temple des Morts, c'est finalement 100% consacré à ces 5 dernières minutes et rien d'autre. Donc, Spike, finito, on le voit juste, c'est juste devenu un PNJ. Il n'a absolument plus rien à raconter. L'arc, donc voilà, comme je vous expliquais, il y a tout un arc consacré aux Power Rangers. Donc là, j'ai marqué au secours. J'ai marqué aussi que c'est nanar avec leur perruque, parce que bon, j'imagine les cheveux de l'espèce de gourou joué par Jack O'Connell. Donc, qui a joué dans Sinners, il joue très bien, son personnage est plutôt intéressant, mais c'est le seul, hein, c'est le seul qui est vraiment développé. J'imagine que tout le monde porte une perruque pour ressembler à son gourou, qui font tous référence au Teletubbies parce qu'ils regardaient la télé, ils font partie de ces enfants qui regardaient, je crois, qui regardaient la télé au début du film. En tout cas, non, qu'est-ce que je raconte? C'est le gamin qui s'échappe au début du tout premier film, enfin de 28 ans plus tard, qui devient le gourou de cette secte. Et je ne comprends pas ce qu'ils veulent raconter avec ça, j'en ai rien à foutre en fait, c'est voilà, je vais être franc. On a donc tout un arc consacré aux Power Rangers, et un autre arc consacré au Docteur, toujours joué par Ralph Fiennes, qui est dans la même continuité de ce protagoniste un petit peu fou. C'est le second personnage vraiment intéressant, mais sauf que pareil, ce mec n'a plus rien d'autre à raconter à part son arc autour de la guérison. Parce que oui, en fait, pendant tout le film, il va chercher à guérir l'espèce d'alpha et ça sera... Enfin, c'est là que le film a un peu perdu, c'est que clairement, c'est humoristique. Enfin, tout était pensé pour que ce soit humoristique, pour que ça désacralise un petit peu l'univers, pour que ce soit un petit peu grotesque. Parce qu'on va le voir danser durant tout le film avec l'alpha. En fait, tout a été pensé pour déconstruire l'antagoniste du premier film. Donc qui était l'alpha, l'espèce de gros zombie très musclé, à poil avec un gros zizi. Là voilà, tout était pensé pour le déconstruire pendant sa phase de guérison. Et même ça, j'ai pas compris parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'on apprend de plus, enfin qu'est-ce que le docteur a appris de plus par rapport au premier film pour pouvoir amorcer sa méthode de guérison. Pourquoi que maintenant? Enfin pourquoi il ne comprend ça que maintenant? Pour le guérir, finalement il fait une sorte de thérapie avec ses flèches, ses espèces de poisons, ses espèces de drogues. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce film. Cela dit, l'acteur est toujours excellent, donc bon, au moins ça permet de passer un petit peu de pommade. On a aussi, alors j'ai marqué, on a la petite pistonnée Erin Kellyman, qui joue dans plein de trucs connus, cette meuf, vous allez la voir dans plein de trucs anglo-américains souvent, et je ne sais pas pourquoi, parce que je la trouve vraiment pas ouf. Bon, elle est pas mauvaise, hein, c'est pas une mauvaise actrice, mais c'est quand même, je sais pas, tu sens le piston, comme je vous expliquais avec la réalisatrice Nia DaCosta, qui n'est pas une femme de talent, si je puis me permettre. Et on retrouve toutes ces patterns du piston, encore une fois, dans ce film, par le biais de cette actrice. Bon, c'est pas très grave, évidemment, parce que ce n'est absolument pas le problème numéro 1 du film. Parce que voilà, là, j'ai noté toute la forme. J'imagine que le film est toujours filmé par un iPhone, comme l'était le premier film. J'en ai jamais parlé dans ma première vidéo parce que je n'étais tout simplement pas au courant. On dit que le film était filmé par un iPhone. En vérité, il y a évidemment tout un tas d'extensions qu'on coltine sur l'iPhone pour ressembler à peu près à un film normal. Donc, c'est plus une sorte d'anecdote qu'autre chose. Et je pense qu'ils ont utilisé le même procédé pour cette suite. Sauf que ça ne se voit pas pour le meilleur et pour le pire. Ça ressemble plus à un film extrêmement classique. Et c'est ça qui me pose problème par rapport à la patte de Danny Boyle, et je sens que la réalisatrice a voulu se détacher de la patte de Danny Boyle, mais ce qui me pose problème, c'est que ce que j'avais principalement adoré dans le précédent film, c'était justement ce style très décousu, très bizarre, très désynchronisé, avec même des faux raccords artistiques. On avait quelque chose de très beau, de très poétique dans ce côté décousu de 28 ans plus tard. Dans cette suite, j'ai trouvé ça relativement moche visuellement et très sombre aussi, alors que le premier était beau tout le temps. C'était magnifique, on avait des panoramas mais de psychopathes, vraiment j'étais presque en transe, je me souviens. Et c'est pour ça que ça avait réussi à me faire abstraction de ce scénario finalement cousu de fil blanc et souvent pas très cohérent, parce que j'étais trop obnubilé par la forme. Les plans les plus impressionnants pour moi étaient vraiment ces espèces d'ombres chinoises en panorama avec les zombies en fond, les infectés, l'alpha qui criait. C'était très poétique. Dans le Temple des Morts, finalement, j'ai vu une réal très décevante, très académique, très simpliste, qui certes les tâches du premier film, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. À ça s'ajoute le montage. Le montage, lui aussi, il n'est pas mauvais, hein, mais c'est juste également très linéaire. Beaucoup plus simpliste. C'est tellement décevant. Et c'est pour ça que je pense que cette suite plaira plus aux gens qui n'ont pas aimé le premier film. C'est juste pas pour moi. Il me semble que ce n'est pas le même monteur dans cette suite et ça se voit tellement. Ça ressemble presque à une sorte de contrefaçon de la première partie. Par exemple, dans la première partie, la scène, pour moi, l'une des meilleures scènes du film, c'est quand on a le père et le fils qui se font poursuivre par l'alpha sur le pont. Mais juste artistiquement, l'idée est géniale, quoi. Le fait qu'ils se fassent poursuivre sur le pont qui commence à prendre de l'eau, on a l'impression qu'il marche sur l'eau, donc il y a presque un aspect christique dans cette scène. Le panorama est génial, hein. C'est le fait que le ciel soit coloré comme ça, avec une musique désynchronisée de la situation, qui monte, qui monte, qui monte, l'alpha qui court, tu sais qu'ils sont morts. Tu sais que si l'alpha les rattrape, ils sont morts, ils vont se faire arracher la tête. Donc t'as les tensions qui montent, et lorsqu'ils se rapprochent du portail, on a une transition extrêmement étrange avec le montage, très artistique. On voit un mélange entre l'accomplissement et la fin de l'épreuve. C'est-à-dire qu'on voit des bouts de scène où ils font la fête avant même que la scène précédente soit terminée. C'était génial. Vraiment, je n'avais pas vu ça ailleurs. C'est l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, ok, certes, le scénario un peu cousu fil blanc, mais par contre la forme, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça ailleurs. J'ai trouvé ça génial. Je ne retrouve jamais ça dans la suite. Bah putain, ça me manque. Et surtout, ça m'a fait me rendre compte que Danny Boyle est parfaitement irremplaçable. Et finalement, c'est plus rassurant qu'autre chose. Ça montre que chaque réal a sa propre patte. Finalement, on a plein de débats sur l'intelligence artificielle, mais là, tu le vois. Tu vois clairement que même avec des moyens, des gros moyens, tu peux pas remplacer un réal. Tu peux pas remplacer le style d'un réal. On a beaucoup singé, par exemple, Snyder avec les films du DCU, mais finalement, à chaque fois, ça tombait à l'eau. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment remplacer son style, même en le singeant. Tout comme dans les prochains Dune, lorsque Denis Villeneuve s'en ira, il ne pourra pas se faire remplacer. On le voit également dans la série sur HBO, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas la question. Là, j'ai vraiment eu l'impression que Nia DaCosta a eu la flemme de faire un bon film. Après, encore une fois, ce n'est pas elle qui a écrit le film, mais je trouve son découpage extrêmement faiblard, artistiquement parlant. C'est vraiment le minimum syndical. Je vais quand même ajouter quelques bons points, notamment l'espèce de scène de concert à la fin qui n'a aucun sens, mais le film précédent, lui aussi, avait des scènes qui n'avaient aucun sens, puisque ça contribuait à la légèreté qu'on voulait installer. Surtout, bon, encore une fois, l'acteur Alfin porte le film comme c'est pas permis. Sa façon de bouger, tu vois qu'il est vraiment en forme, c'est un mec extrêmement sportif pour son âge. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est que le film, malgré son côté linéaire, ne va pas toujours dans la facilité. Comment dire, tu t'attends par exemple à la fin à ce que le groupe des doigts, comme il l'appelle, se retourne contre son gourou, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc plutôt bien joué. Enfin, il y a plein de moments où je me suis dit, ok, il va se passer ça. Ah non, il se passe pas exactement ça. Donc ils ont préparé tout un truc qui finalement tombe à l'eau, mais ça contribue à cet effet imprévisible, le côté survie. Finalement, on a beaucoup d'éléments perturbateurs qui vont casser cette ligne. Et autre bon point, c'est que le film ne retient pas ses coups, si on veut, par rapport à des scènes choc. Le film est très violent. L'ambiance sonore, elle, est pratiquement la même que celle du premier film, mais pareil, je trouve que la façon avec laquelle c'est utilisé, c'est pas très pertinent. Et mention spéciale, évidemment, à cette playlist de musique, des musiques que j'adore, hein, que j'ai écouté moi-même de mon côté, et ce depuis bien longtemps. Bref, je vais spoiler les 5 dernières minutes. Attention, préparez-vous. Donc, à la fin, nous voyons bien le retour de Cillian Murphy. Et seulement lui, hein, pas, j'ai oublié l'actrice qui jouait, qui, pourtant très connue, hein, mais l'actrice qui jouait dans 28 jours plus tard. À la place, on voit sa fille, qui j'imagine vient d'elle, hein, puisque la fille est métisse. Malheureusement, ce cliffhanger, parce que c'est clairement apporté comme un cliffhanger, c'est censé nous expliquer que Cillian Murphy jouera dans la suite. Alors si jamais Danny Boyle, si par miracle Danny Boyle reprend la réal pour la suite, là j'irai le voir, avec grand plaisir. Ce qui je pense ne sera pas le cas, nous verrons bien. Mais en fait c'est tout en fait, la fin n'apporte absolument rien, à part nous dire que Cillian Murphy est de retour. Ça nous explique brièvement que les deux survivants, donc Spike et la meuf, là j'oublie le nom, qui s'est alliée avec lui, qui ont fui tous les deux le groupe des doigts, pour les rejoindre, pour rejoindre les survivants. Ça nous explique juste que ce petit groupe de survivants va rejoindre Cillian Murphy, mais c'est tout en fait, ça n'apporte pas un nouvel enjeu. Ce n'est pas un vrai cliffhanger, c'est juste une fin à la con. Enfin, c'est juste une fin clin d'œil. Donc c'est pas hyper intéressant, maintenant qu'on sait tous qu'un troisième film est en préparation. Du plus, ça se termine sur la musique extrêmement culte de 28 jours plus tard. Bon, je vais pas vous la chanter, hein, vous la connaissez. Et même si j'adore cette musique, tu vois qu'ils l'ont posée là juste pour le fanservice, parce que concrètement, c'est pas la musique la plus appropriée au contexte, c'est une musique de fuite, c'est une musique de survie. S'ils voulaient faire un vrai clin d'œil de fanservice, il fallait mettre la musique de fin du premier 28 jours plus tard, là j'aurais compris. C'était donc 28 ans plus tard, les temples des morts, et putain de merde, qu'est-ce que j'ai pas aimé. J'ai eu l'impression de voir un énorme foutage de gueule, j'ai eu envie de sortir de la salle plusieurs fois tellement qu'on se fait chier, j'ai vu que des gens se faisaient interviewer quand je suis sorti de la salle, et des meufs disaient qu'elles ne se sont pas fait chier, donc voilà, ça vient juste de moi. Sachez que je suis conscient que le film reçoit de bonnes critiques, je sais que le problème ne vient que de moi. Je suis déjà au courant que les gens, enfin, je vois déjà venir que les gens qui n'ont pas aimé le précédent vont adorer celui-là, exactement comme pour Camelot 2, si c'était le plus gros what the fuck, je ne comprends pas en quoi le 2 est meilleur que le premier, mais bref, soit, j'ai compris. Mais après, je dis ça, mais les commentaires sont évidemment à votre disposition, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Mais vous savez que le précédent film était certes extrêmement lent, mais au moins sa lenteur servait de prétexte à la contemplation. C'était un film extrêmement contemplatif et extrêmement magnifique, avec des panoramas magnifiques. Alors que dans cette suite, je n'ai rien retrouvé de tout ça, c'est bien dommage. Bref, écoutez, avant de se quitter, je vous rappelle encore une fois que mon Patreon est à votre disposition en lien, en description et en commentaire épinglé pour goûter quelque peu à cette vidéo bonus consacrée à Atomerde, la plus grosse bousasse atomique que j'ai pu voir ces dernières années. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis là ciao et à la prochaine.